La visite d'Emmanuel Macron au Cameroun, la première d'un président français depuis 2015, n'a pas été un hasard. Le locataire de l'Élysée l'a reconnu mardi à Yaoundé, justifiant son déplacement par la profondeur de la relation franco-camerounaise. Ce qui reste, un coup de bluff. Car une profondeur relationnelle va bien au-delà d'ouvrir les archives de crimes coloniaux de la France et demande le non-ingérence dans les affaires africaines, le respect mutuel, soit des éléments qui n'existent guère entre Paris et Yaoundé. On se rappelle en effet comment, au plus fort de la pseudo-crise anglophone, une crise entièrement inventée pour tenter d'amputer le Cameroun de son nord et sud-ouest, s'est transformée pour Paris en un levier destiné à déstabiliser le Cameroun. Toute cette diaspora payée à la pigiste est réunie sur Trocadéro, à l'effet d'écouter l'opposant pro-Occident Camto, tous ces efforts US-France visant à imposer un changement constitutionnel destiné à faire de Cameroun une fédération ou, disons-le le mot, à démembrer le pays, le Cameroun ne l'oubliera pas et ne l'oubliera jamais. Aussi quand Macron se souvient des Camerounais après 7 ans, tout le monde s'interroge et ma foi la réponse n'est pas si difficile à trouver. En fait, Macron, représentant de l'axe US-OTAN, s'est rendu au Cameroun moins pour renforcer un quelconque lien fraternel que pour ne pas perdre la face à une Russie dont le ministre des Affaires étrangères se trouvait en tournée africaine, là où il a été largement plus bienvenu que Macron. Jupiter, en effet, la mission désespérée de contrer cette sympathie pro-russe qui gagne l'Afrique et qui fait que les États africains, après des années d'occupation militaire franco-otanienne au Sahel et ailleurs, voient en Russie un partenaire qui ne convoite ni leur richesse, qui n'introduit pas le terrorisme et qui veut s'engager dans un rapport gagnant-gagnant. C'est cela que le président Macron a qualifié lors de son point de presse avec M. Biya de « carabistouille russe ». Terme étrange qui, dans la bouche d'un président ou de président d'un État qui a commis autant de crimes de guerre au Mali, au Burkina, au Niger et au Tchad, en RCA ou encore en Côte d'Ivoire, ne passe pas. Ce terme laisse échapper en effet une profonde crainte, celle de voir le Cameroun opter pour la même ligne que le Mali et la RCA et laisser l'axe occidental en rade, rien que pour éviter ce qui arrive en ce moment même à la RDC, dont le président, se laissant aller au baiser de Judas, voit la guerre se proliférer dans la région frontalière à la faveur de l'éternelle vallée de l'Occident qu'est Paul Kagame. Or, la tâche que se fixait Macron est ardue, extrêmement ardue. Biya est un gentilhomme, il ne contredit pas ses hôtes, n'empêche qu'en avril 2022, la Russie et le Cameroun ont signé un nouvel accord militaire basé sur l'échange d'opinions d'informations en matière de politique de défense, de sécurité internationale, de développement des relations dans les domaines de la formation conjointe et l'entraînement des troupes, d'enseignement militaire, de médecine, de topographie ou encore d'hydrographie militaire, les deux pays ayant convenu aussi de l'échange d'expériences de maintien de la paix, d'intégration dans des opérations de soutien à la paix sous l'égide des Nations Unies. Et n'en déplaise à Macron, cet accord fonctionne à merveille. Ukraine ou pas, il a toutes les chances de s'éterniser. Cette géniale idée de la RCA de se moquer de la monnaie de singe qu'est le franc CFA et de le remplacer par une monnaie digitale du nom de Sango Coin, monnaie capable de contourner toutes les sanctions, même aussi vastes que celles qui ont frappé il y a quelques mois le Mali avant qu'elle ne brise en 1000 morceaux par la résistance du peuple malien, est-elle en train de faire des émules partout en Afrique? Visiblement, oui. Dans la mesure où non seulement des États africains y pensent de plus en plus, mais encore certains d'entre eux commencent à dépasser le franc CFA pour défier directement le dollar. C'est le cas de Zimbabwe, qui a commencé à frapper des pièces d'or afin de créer une alternative au dollar américain en tant que réserve de valeur. Cette initiative a permis de réduire la demande de la devise américaine dans le pays africain, selon Rianovosti. La pièce s'appelle « Mosi Oa Tunia ». C'est ainsi que les Zimbabwéens appellent les chutes Victoria les plus grandes d'Afrique. La valeur de la pièce dépendra du prix de l'or sur le marché mondial, plus une commission de 5% pour la production et la distribution. Au cours des dernières décennies, le Zimbabwe a souffert de l'instabilité de la monnaie nationale et de sa dépréciation rapide face au dollar. La population locale souhaite naturellement investir dans des devises étrangères pour conserver ses économies. Ainsi, la demande de ces dernières a augmenté, ce qui entraîne une dépréciation encore plus importante du dollar zimbabwéen. Le dollar zimbabwéen a existé du 15 avril 1981 au 30 juin 2009. Il a été introduit à la place du dollar rhodésien qui circulait auparavant. Le 1er août 2008, une coupure a été effectuée lorsqu'un nouveau dollar était également à 10 000 milliards d'anciens second dollars. Le second dollar est apparu le 21 août 2006, lorsque le premier dollar a été échangé contre le second à un taux de 1000 sur 1. Le 2 février 2009, le Zimbabwe, ayant redénommé son troisième dollar, à un taux de 1000 milliards pour 1. Le 12 avril 2009, la circulation du dollar zimbabwéen dans le pays africain a été interdite. À la place, les Zimbabwéens ont commencé à utiliser des dollars américains, des livres sterling britanniques, ainsi que des devises des États africains, voisins dont l'économie était plus stable. Le 30 juin 2009, le dollar zimbabwéen a cessé d'exister sur décision de la Reserve Bank of Zimbabwe. Selon les données officielles, l'inflation pour l'année a atteint 231 millions de pourcents à partir de juillet 2008. En octobre 2008, les prix doublaient toutes les 24,7 heures. Par exemple, une canette de bière le 4 juillet 2018 à 17 heures hors local coûtait 100 milliards de dollars zimbabwéens, mais une heure plus tard, elle valait 150 milliards, un peu comme le Venezuela qui avait choisi de faire face aux États-Unis. Et à partir de juin 2019, la Banque centrale de Zimbabwe a annoncé la reprise de la circulation du dollar zimbabwéen. Le 11 octobre 2019, le taux a atteint 361 dollars zimbabwéens pour un dollar américain. Le Zimbabwe n'a-t-il pas raison de vouloir enterrer le dollar ?
Dans le cadre de sa tournée africaine, le président français Emmanuel Macron est arrivé ce mercredi 27 juillet à Cotonou pour rencontrer le président béninois Patrice Talon. Comment peut-on analyser les objectifs de cette tournée africaine du président français et que cherche Macron au Bénin ? Décryptage avec Luc Michel, géopoliticien belge.
Ce qu'il faut constater, une première chose à dire, c'est que la visite de Macron au Bénin, comme celle au Cameroun, ce n'est plus celle de l'Empire français d'avant 2015 avec la France-Afrique dominante. Aujourd'hui, la France, c'est une puissance en décadence, en déclassement, comme on dit à Paris, et elle est coincée entre le marteau et l'enclume. Le marteau, ce sont les populations africaines qui rejettent le colonialisme français, mais l'enclume, c'est celle de l'impérialisme américain qui veut que la France dégage de son ancien précaré français. Particulièrement la visite de Macron à Cotonou, elle a été sabotée par un tic-tac américain qui s'appelle le New York Center for Policy Affairs, le centre de New York pour les affaires de politique étrangère, qui est dirigé par l'homme d'affaires américain Russell et qui s'est engagé auprès de Marine Le Pen et de Mélenchon pour dénoncer la visite de Macron, prétendant que Macron est venu, ce qui n'est pas du tout le cas, est venu soutenir le président Talon et soutenir un dictateur africain. En fait, les Américains ont entamé une tentative de révolution de couleur contre le président Talon, qu'ils veulent renverser parce que celui-ci a réorienté sa géopolitique de son pays comme ça existe dans toute l'Afrique, vers le bloc de l'Est. Le discours de Macron, donc, il ne vise pas du tout les Africains, bien entendu, mais il vise principalement, il est à usage interne français, il vise à justifier l'impérialisme français et à faire croire aux populations françaises et aux alliés de la France en Europe que les Français dirigent encore le mouvement en Afrique. Macron a tenu particulièrement un discours qui est celui de dénoncer la Russie et de prétendre que la Russie est le dernier empire colonial. Le ministre Lavrov, depuis l'Éthiopie, y a répondu. J'ai moi-même publié une très longue réponse à Emmanuel Macron et qui montre, qui est basée sur un livre, la dernière biographie de la France-Afrique qui s'appelle « Un empire qui ne voulait pas mourir ». Nous démontrons que la France-Afrique, évidemment, les discours de Macron sont basés sur le mensonge et qu'en fait, le véritable néocolonialisme qui n'existe pas toujours et qui est présent en Afrique, c'est celui de l'impérialisme français.
Au moins 15 soldats maliens et 3 civils ont été tués ce mercredi 27 juillet 2022 dans 3 nouvelles attaques coordonnées et attribuées à des terroristes. Cela porte le nombre à 11 attaques au Mali en moins d'une semaine. Au moins 15 soldats maliens et 3 civils ont été tués mercredi dans 3 attaques coordonnées et attribuées à des terroristes, ce qui porte à 11 leur nombre en moins d'une semaine au Mali. À Kalumba, près de la frontière mauritanienne, le bilan côté ami est de 12 morts, dont 3 civils d'une entreprise de construction de route, a indiqué dans un communiqué le colonel Souleymane Dembélé, directeur de l'information et des relations publiques de l'armée. À Sokolo, dans le centre, l'armée fait état de 6 militaires morts et 25 blessés, dont 5 graves. L'armée malienne affirme avoir tué 48 assaillants et neutralisé 3 pick-up terroristes à 15 km de Sokolo, avec des occupants estimés à une quinzaine de combattants et leurs équipements. L'Afrique du Sud demande qu'Israël soit déclaré état d'apartheid. Le ministre sud-africain des Affaires étrangères, Naledi Pandor, a déclaré qu'Israël devrait être désigné état d'apartheid et appelé l'Assemblée générale des Nations unies à créer un comité chargé de vérifier s'il satisfait à ses exigences. Le récit palestinien évoque des expériences de la propre histoire de ségrégation raciale et d'oppression de l'Afrique du Sud, a-t-elle affirmé lors de la deuxième réunion des chefs de mission palestiniens en Afrique qui s'est tenue à Pretoria, la capitale administrative du pays. En tant que Sud-Africains opprimés, nous avons subi de première main les effets de l'inégalité raciale, de la discrimination et du déni, et nous ne pouvons pas rester les bras croisés alors qu'une autre génération de Palestiniens est laissée pour compte, a-t-elle déclaré, appelant la communauté civile mondiale à se joindre au rassemblement de protestation devant les ambassades du régime sioniste à travers le monde. La première ambassade palestinienne en Afrique du Sud a été accréditée en 1995, marquant le début des relations diplomatiques entre les deux pays. Au fil des ans, le gouvernement sud-africain est resté allié solide de la Palestine, fournissant à la fois un soutien matériel et public à sa cause de libération. Révocation du contrat de concession du projet ferroviaire entre Cotonou et Niamey. Le Bénin et le Niger ont signé il y a une semaine un protocole qui résilie le contrat de concession attribué au groupe français Bolloré relatif à la modernisation et l'exploitation du chemin de fer qui raccordera Cotonou à Niamey, passant par les villes de Parakou et Dosso. Le projet remporté en 2010 par le groupe Petrolin suite à un appel d'offres international lancé en 2008 a par la suite été rétrocédé en 2013 au groupe Bolloré. Le président béninois, qui avait initialement proposé en mai 2016 un modèle de gestion du projet sous forme de consortium entre les deux parties en conflit, a ensuite annoncé son intention de les écarter pour le confier à la China Railways Construction Corporation.